Et aujourd'hui, je voudrais vous partager un message. Ce message, je l'adresse, je le dédie à chacun de vous ici, à cette communauté. Je l'adresse aussi, je le dédie à ceux et celles qui sont proches et attachés à nous d'une manière ou d'une autre, par rapport au ministère, par rapport à l'IMB, peut-être à d'autres cadres encore où nous travaillons ensemble. Et humblement, je l'adresse aussi à tout le corps de Christ, parce que je crois qu'il y a vraiment une pensée que j'ose dire prophétique pour ce temps, pour cette année, pour 2015, pour aujourd'hui. Et cette pensée, pour vous qui êtes là, nous en avons partagé juste quelques premiers aperçus le 1er janvier, pendant qu'on était là dans ce temps de consécration. Et je vous avais livré cette pensée que j'avais reçue, ce passage, et on avait commencé à juste recevoir ensemble plusieurs choses. Et certains eux-mêmes avaient eu des inspirations, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment développer cette pensée que Dieu nous a donnée et que Dieu nous donne. Et comme je le disais, je veux l'adresser vraiment à chacun de nous et à chacun de ceux qui, j'allais dire, se réclament de Christ comme un appel, comme une trompette qui résonne en disant « c'est l'heure de paraître ». Et le titre du message, le titre de cette pensée prophétique et le titre de ma réflexion que je vous livre et de ce que je crois être un appel pressant de l'Esprit aujourd'hui, c'est l'heure de paraître car l'enlèvement est proche. C'est l'heure de paraître car l'enlèvement est proche. Je n'ai pas l'habitude de faire des déclarations comme ça. Et pendant longtemps, je disais, je ne suis pas très fan des déclarations de début d'année et de toutes sortes de choses qui se font dans bien des endroits. Mais je dois reconnaître que le début d'année est une bonne occasion pour nous d'écouter la pensée de Dieu et du coup pour Dieu de nous révéler sa pensée et son plan. Vous savez, Dieu nous parle lorsque nous l'écoutons. Et alors que nous mettons souvent du temps à part dans les changements d'année pour l'écouter, eh bien Dieu lui saisit l'occasion et nous parle. Et ce que j'ai à vous parler, ce que j'ai à vous partager aujourd'hui, et à chacun qui l'entendra, ce n'est pas seulement spécialement pour le 1er janvier 2015, mais c'est ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. C'est ce que Dieu est en train d'opérer. C'est quelque part un indicateur du temps dans lequel nous sommes, dans le plan de Dieu, dans ce grand programme que Dieu a pour l'humanité et qu'il nous a révélé dans sa parole depuis bien longtemps. Et c'est l'heure de paraître car l'enlèvement est proche. Cette parole, cette réflexion se base sur Romains chapitre 13. Et nous allons lire ce passage ensemble, Romains 13, les versets 11 à 14 en particulier. Et à partir de ce passage que je vais commenter un petit peu, nous allons développer cette pensée et aborder encore d'autres écritures qui viennent appuyer certaines vérités et qui doivent, je prie, mettre dans nos cœurs une perspective nouvelle, ou du moins réveiller ou ranimer la perspective qui doit être la bonne en tant que fils et filles de Dieu dans le temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est l'heure de paraître. L'enlèvement est proche. Romains, chapitre 13, verset 11. L'apôtre Paul vient de donner un certain nombre de recommandations sur la façon de vivre, sur les relations, etc. Et s'il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Et ici, il y a vraiment cette pensée qui ressort et il est dit, vous savez en quel temps nous sommes. Et Paul ici ne demande pas, savez-vous, pensez-vous savoir dans quel temps nous sommes, il dit, vous savez dans quel temps nous sommes. Et je dis, et l'Esprit de Dieu dit à l'Église, vous savez dans quel temps vous êtes. Et j'ose dire, je peux dire que nous sommes dans les temps de la fin. Si nous observons un peu les Écritures, et je ne vais pas m'improviser aujourd'hui spécialiste, et le temps ici ne nous le permet pas, mais si vous observez un tout petit peu les événements qui se passent, même à l'échelle mondiale, à l'échelle des nations, à l'échelle d'Israël, à l'échelle de divers événements, et que vous les comparez à la prophétie biblique, vous savez que nous sommes dans les derniers jours. Et l'Écriture régulièrement nous dit combien il est important de discerner les temps. Jésus disait même à ses contemporains, vous regardez le ciel et vous savez, selon la position du soleil, vous savez prédire des choses, vous savez comprendre. Mais pour ce qui est du temps de Dieu, vous ne comprenez pas. Parce que les gens de ce temps-là ne savaient pas reconnaître que Jésus était le Messie promis, qu'il était l'envoyé. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas de cela. Vous savez dans quel temps vous êtes. Nous savons dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les temps de la fin. Donc, dit-il, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure de vous réveiller du sommeil. C'est l'heure. Quelle heure est-il ? L'heure de nous réveiller du sommeil. C'est l'heure. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un « c'est l'heure », vous appelez une action. D'accord ? Quand on se prépare ou qu'on est là à vaquer à ses occupations et que d'un coup on dit « c'est l'heure », ça va produire quelque chose. Ça va, on passe d'un état à un autre. On se met en action, on se met en œuvre, ou du moins on va changer sa position, ou on va poser un acte, et ça produit quelque chose. Lorsque nous disons « c'est l'heure », ou aujourd'hui lorsque la technologie nous aide, et que tôt le matin, un certain bruit vient troubler le calme de la nuit, vient nous dire « c'est l'heure », ça nous réveille, et ça nous met en activité en disant « la journée commence, j'ai une tâche à accomplir, il y a quelque chose qui se passe maintenant, il y a quelque chose qui va arriver ». Et de mon action présente vont dépendre un certain nombre de conséquences. Quand le réveil sonne et dit c'est l'heure, je peux continuer de dormir tranquillement. Par contre, si j'avais un rendez-vous, il va falloir que je justifie de mon absence. Si quelque chose m'attendait en chemin, eh bien je vais le manquer. Des conséquences vont se présenter. Mais quand Dieu dit c'est l'heure, ça doit réveiller quelque chose en nous. Ça doit susciter quelque chose. C'est l'heure de quoi ? De vous réveiller enfin du sommeil. C'est dommage parce que beaucoup de termes et de vérités bibliques ont été beaucoup dilués à force de les utiliser un peu dans tous les sens et j'allais dire à toutes les sauces. Et à un moment, on a beaucoup parlé de réveil. Et on a tellement parlé de réveil dans tous les sens que les gens se sont presque encore plus endormis que jamais. Et plus le temps passe, plus les années passent, et moins ce réveil dont beaucoup caressaient l'espoir il y a encore quelques dizaines d'années. J'ai rencontré des gens, j'ai cheminé avec des personnes qui étaient constamment en train de parler de réveil, 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 réveil. On faisait des réunions de réveil, on faisait des programmes de réveil, on faisait la prière du réveil, on faisait plein de choses du réveil. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on dort encore plus qu'il y a 10 ans. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas une vérité ni une réalité dans une notion de réveil qui doit se manifester. Et c'est clair que des événements doivent se produire et tout un mouvement de salut, de délivrance, comme jamais, doit et va se manifester. Ça, c'est sûr et certain. Mais souvent, nous avons entendu ce réveil comme quelque chose d'extérieur, comme quelque chose qui allait un beau jour nous tomber dessus. À dire, ah oui, quand ce sera le réveil, ça sera bien. Mais Dieu nous dit, réveillez-vous. Et aujourd'hui, et peut-être en janvier 2015, parce que c'est la bonne occasion, Dieu dit, c'est l'heure de te réveiller. Pendant que nous disons, Seigneur, fais le réveil, Seigneur, réveille la nation, Seigneur, réveille ton peuple, Seigneur, réveille. Il dit, mais réveillez-vous. Autrement dit, ce n'est pas à lui de te réveiller, c'est à toi de te réveiller. Lui, il te donne le signal, il dit, c'est l'heure, mais tu te réveilles. Tu te réveilles. Parce que beaucoup se sont laissés endormir dans un train-train de vie quotidienne. Et pardonnez-moi, mais beaucoup se sont endormis dans un train-train de vie chrétienne. Beaucoup se sont endormis dans un train-train de vie de la foi, qui n'a d'ailleurs même plus grand-chose à voir avec la foi. Une vie chrétienne qui n'a finalement même plus grand-chose à voir avec la vie à l'image de Christ. Et il est nécessaire, et plus que nécessaire, qu'une profonde prise de conscience et action paraissent maintenant. Il est plus que temps que nous réalisions, que nous nous réveillons du sommeil. Donc Dieu dit, c'est l'heure de vous réveiller. Donc Dieu te dit, réveille-toi. Si quelqu'un dort, réveille-toi. Ailleurs, l'Écriture dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Mais encore, il dit, réveille-toi. Il ne dit pas, attends que Christ t'éclaire et ça te réveillera. Rien ne te réveillera, c'est à toi de te réveiller. Mais Dieu encore et encore use de patience. Dieu encore et encore continue de faire sonner la trompette, de dire, c'est l'heure, c'est l'heure. Vous savez, il y a des personnes qui ont plus de mal que d'autres à se réveiller le matin. Je reprends mon exemple. Et parfois, un réveil sonne et d'autres se réveillent tout de suite, se lèvent et vont vaquer à leurs occupations. C'est très bien. Mais d'autres ont besoin de plusieurs réveils. N'est-ce pas? D'autres ont besoin que le premier réveil peut-être même sonne plusieurs fois, mais ils ont besoin encore d'ajouter. Peut-être il y a le réveil qui est près de la table de nuit, et puis il y a aussi le téléphone qui va sonner peut-être 5 minutes plus tard. Et puis peut-être il y a encore autre chose, l'ordinateur qui va sonner 10 minutes après. Et pour être vraiment sûr, on va même programmer une radio ailleurs dans la maison pour être obligé de sortir du lit si ça sonne. Parce que ça va déranger tout le monde. Je vois qu'il y a des gens à qui ça parle. Mais vous savez quoi? Même si il faut attendre encore que la radio sonne, et peut-être même que s'il faut qu'un voisin vienne sonner à ta porte, peut-être même que s'il faut que ton patron téléphone pour dire « mais tu es où ?», Dieu lui-même persévère encore et encore et encore, et il continue d'allumer tout ce qui peut être allumé. Et aujourd'hui, alors que tu entends ces paroles, Dieu te dit « c'est l'heure !» Et humblement et en toute simplicité, mais... Permettez-moi d'utiliser l'image et de dire « je suis encore l'un de ces multiples réveils que Dieu allume » en disant « c'est l'heure !» C'est l'heure de te réveiller. Te réveiller du sommeil, de te lever, de revenir à la vie. D'être là dans un amour profond, concret, vivant de ton Seigneur. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. C'est l'heure de vivre pleinement les choses. C'est l'heure d'être à l'écoute, d'être à l'affût. C'est l'heure de te tenir devant lui. C'est l'heure de te réveiller du sommeil. Et plus que la seule notion de se réveiller qui nous est tellement nécessaire, le texte ici, en fait, le texte original, inclut la notion de paraître. C'est pourquoi j'ai intitulé ce propos « C'est l'heure de paraître ». C'est l'heure de paraître. Paraître, être visible, être révélé, être manifesté. C'est l'heure de paraître. Dieu dit à chacun d'entre nous, et Dieu dit, permettez-moi, à son Église, « C'est l'heure de paraître ». C'est l'heure que se lève l'Église de Christ. C'est l'heure que soit révélée l'Église de Christ. C'est l'heure que soit vue, que soit manifestée l'Église de Christ. Et ceux qui la constituent, les pierres vivantes que vous et moi nous sommes, c'est l'heure. Mais pour que l'Église, pour que tu paraisses, il faut te réveiller. Donc cela amène ce premier point, c'est l'heure de vous réveiller et de paraître. Matthieu chapitre 5, on va quitter pour un instant ce passage de base, mais qu'on reprendra plusieurs fois à Romains 13. Matthieu 5, versets 14 à 16. On va prendre au verset 13. « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perdait sa saveur, avec quoi la lui rendrait-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. En passant par là, verset 13, il est dit, le sel qui ne donne plus de goût ne sert qu'à être jeté dehors et être foulé aux pieds. Et sans vouloir dramatiser les choses, n'avons-nous pas quelquefois l'impression que le soi-disant témoignage de Christ dans ce monde est souvent mis au dehors et foulé aux pieds? N'avons-nous pas parfois l'impression que l'Église est laissée dehors à l'écart de ce monde et même foulée aux pieds? Et pour être plus personnel, n'avons-nous pas parfois l'impression que notre lumière, notre témoignage, notre attachement à Christ et parfois juste laissés dehors et foulés aux pieds. Que ce soit par le monde qui nous entoure, mais bien tristement, quelquefois par nous-mêmes. Au gré des circonstances, au gré des événements, nous mettons dehors ce qui est pourtant notre saveur. Nous cachons sous un boisseau ce qui est pourtant notre éclat et splendeur. Mais il n'en sera plus jamais ainsi, parce que c'est l'heure de paraître. C'est l'heure. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise devant les hommes. Que votre lumière luise. Là encore, il dit, c'est l'heure de paraître. Jésus lui-même dit que votre lumière luise. La lumière, ça se voit, s'il vous plaît. Et ce monde est ô combien régulièrement comparé aux ténèbres. Et ô combien nous sommes dans des temps où les ténèbres ne font que s'épaissir. Il fait de plus en plus noir. L'Écriture même dans Romains nous dit que la nuit avance. Et en même temps, Dieu nous dit, c'est l'heure de paraître. En même temps, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 25, je ne fais que passer dessus. Jésus utilise une parabole pour enseigner au sujet du royaume de Dieu, la parabole des vierges. Nous parlons des vierges folles et des vierges sages. Il nous parle d'un repas de noces auquel sont conviés plusieurs, et certaines de ces vierges sont venues avec des lampes et avec de l'huile. Et pendant que l'époux tardait à venir, toutes se sont endormies. Et au moment où le bruit se fit que l'époux arrive, elles se réveillèrent. Mais parmi celles qui se sont réveillées, certaines avaient des lampes allumées avec de l'huile pour provision, d'autres n'en avaient pas. Et pour n'avoir pas eu leurs lampes allumées et leurs provisions, elles ont manqué le repas de noces. Et alors qu'elles sont venues ensuite frapper à la porte, Jésus a dit, là c'est trop tard. Enfin du moins l'époux. Et c'est une image de Jésus. Alors que nous l'entendons, et peut-être même d'où, loin de moi, et c'est si merveilleux, loin même du Père, l'idée de nous condamner, de nous accuser, elles se sont toutes endormies. Et jamais, il ne leur a été reproché de s'être endormies. Ce qui n'est pas pour autant une bonne excuse pour dormir. Mais ce qui a été reproché, c'était de ne pas être prête. Et ce qui a fait la différence, ce n'est pas dans l'état dans lequel elles étaient avant que l'époux ne soit annoncé. Ce qui a fait la différence, c'est ce qu'elles ont mis en œuvre au moment où elles ont entendu l'annonce de l'époux. Et aujourd'hui, à travers ce message, je viens comme ce messager qui courait devant en disant « L'époux arrive !» Et ce qui compte, ce n'est pas ce qui était jusqu'à maintenant. Peut-être que tu as dormi, peut-être que tu étais réveillé, peut-être que tu étais légère, peut-être que tu étais sérieux, peut-être que tu ne l'étais pas. La question n'est même pas de ce qu'il y avait avant, la question est maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant que tu entends, c'est l'heure de paraître, l'enlèvement est proche. Que fais-tu? Te réveilles-tu? Te lèves-tu de ton sommeil? Vas-tu paraître? C'est tout ce qui fera la différence. C'est pourquoi chaque personne qui entend mon message, tout simplement, nous repartons tous à zéro aujourd'hui. Nous partons d'une page blanche. Je dis, ok, on y va, c'est l'heure. Mais ce qui va faire la différence, c'est maintenant. Maintenant. Donc, soyez prêts. Ne soyez pas surpris. Et si bien même vous étiez endormi, réveillez-vous. Pour être prête et entrer avec l'époux. Romains 8, 19. Cette parole qui m'a si souvent, j'allais même dire, harcelé, qui a fait l'objet de bien des prières, des réflexions. Et je crois que Dieu a répondu en partie à tout cela, même s'il reste encore à comprendre et à apprendre ce dont il est question. Mais il est dit, Romains 8, 19, « La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. » Vous réalisez, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Révélation, manifestation, paraître. Donc l'époux attend que les fils et filles paraissent. Il lui dit, c'est l'heure de paraître, réveillez-vous. Et même la création attend. Quelqu'un dira, le monde ne veut rien entendre, ça va plus, c'est de pire en pire, on n'a qu'à juste se réconforter entre nous et rester là. Vous êtes complètement à côté, le monde attend. La création attend. La création vous attend. Mais qu'est-ce que la création attend ? La création n'attend pas une religion. La création n'attend pas un discours. La création n'attend pas un espèce de faux comportement empreint de tant de choses. Et merci Seigneur parce que, alors même que nous cheminons, et tout à l'heure plusieurs ici, nous avons chanté, prié, et nous nous sommes positionnés et nous avons reçu un réveil de l'amour. Parce que ce que le monde attend, ce n'est pas juste que nous posions certains actes, que nous ayons certaines bonnes paroles, que nous fassions certaines bonnes choses. Ça ne suffit pas. Le monde attend la révélation, la manifestation. Le monde attend que paraissent les fils et filles de Dieu. C'est l'heure de paraître. Dieu attend que vous paraissiez. Jésus vous engage à briller devant les hommes. Et la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils. Revenons à Romains 13, s'il vous plaît. Il est dit donc, cela importe que vous savez dans quel temps nous sommes, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil ou de paraître. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous reviendrons à cette notion. Verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. En même temps qu'il est temps de paraître, qu'il est temps de briller devant les hommes, eh bien pour cela nous avons besoin de nous dépouiller, de nous détacher de ce qui est terrestre, au profit de ce qui est céleste. Et c'est mon deuxième point ici dans cette pensée prophétique. Premièrement, c'est l'heure de vous réveiller et de paraître. Deuxième, dépouillez-vous, détachez-vous du terrestre au profit du céleste. Ce que la création attend, c'est l'image, la réalisation du céleste. Pas les choses de la terre. Les choses de la terre, la création les connaît. Mais elle attend les choses du ciel, le céleste. Dépouillons-nous de ce qui est ténèbres. Donc il est temps, c'est l'heure aussi, plus que jamais, de laisser de côté, d'abandonner tout ce qui était terrestre, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas conforme à la pensée, à l'idée de Dieu, à son plan pour nous, à ce que sa parole nous enseigne. Il est temps, finalement, de consécration et de sainteté. Consécration, sainteté. Éphésiens 4, verset 19, sur ce point. Éphésiens 4, 19. Il est question des gens de ce monde, il est dit, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins, vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelés dans l'esprit de l'intelligence, afin de revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Et ensuite encore, il développe très concrètement sur le mensonge, sur l'injustice et tant de choses. Et je vous invite à relire et à méditer ces passages. Et vous constaterez une chose que j'ai constatée, et vous le verrez au long du développement, je vais essayer d'être assez concis quand même, tout en vous donnant un maximum de choses. Mais à chaque fois qu'il est question de revêtir les choses célestes, à chaque fois qu'il est question de paraître, à chaque fois qu'il est question de se vêtir de Christ, à chaque fois qu'il est question de vivre pleinement notre nouvelle vie, il est à chaque fois question de se dépouiller. À chaque fois. À chaque fois. Et nous voulons vous apporter, je veux vous donner toute la vérité. Quelqu'un dira, comment peut-il prétendre avoir toute la vérité ? Je n'ai pas toute la vérité, mais j'ai celui qui a toute la vérité. Et celui-là m'a promis qu'en me laissant le Saint-Esprit m'enseignerait toute chose. Et bien sûr, Paul disait que nous connaissons qu'en partie, Et même nous prophétisons imparfaitement, mais quand le moment sera venu, ce sera fait de façon parfaite. Mais en même temps, Paul disait aussi, je vous ai donné tout le conseil de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas seulement dire, paraissez, éclairez, puis le Seigneur va nous chercher, ce sera merveilleux, si vous voulez paraître. Alors que vous êtes en train de vous réveiller et de vous positionner pour être révélé, manifesté comme celui, celle que vous êtes en Christ, eh bien, cela passe aussi par un choix délibéré, par une volonté de votre part de vous dépouiller et de vous détacher du terrestre au profit du céleste. Romains 13, revenons-y, poursuit dans ce sens. En disant, verset 14, la fin du verset, « N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc, laissons les choses terrestres, laissons les choses de la chair et leurs convoitises. Cessons de nous soucier des choses de la chair, des choses de ce monde. Cessons de nous soucier des plaisirs immédiats, des satisfactions imminentes pour la chair, pour les choses terrestres. Ceci n'annule évidemment pas le fait que Dieu veuille combler parfaitement tous nos besoins et au-delà. Mais que ce ne soit pas notre recherche, que ce ne soit pas notre priorité, que ce ne soit pas la raison pour laquelle nous marchons sur cette terre et pour laquelle nous sommes en Christ. Dépouillez-vous de tout cela. Alors que nous réfléchissions et échangeions avec Sophie au sujet de ces pensées que je recevais ces derniers jours, Sophie m'a rappelé, mais comment est-ce possible? Alors déjà, juste précision, c'était parfaitement faux et ce n'est absolument pas ce à quoi je vais m'essayer ou m'amuser. Mais à plusieurs reprises, des gens se sont prétendus avoir une révélation du jour et de l'heure précise de la venue du Seigneur et ont annoncé ces choses-là et entraîné derrière eux beaucoup de gens qui ont cru, qui ont pensé que Jésus allait revenir tel jour. Et ça s'est produit plusieurs fois dans les dernières décennies d'ailleurs. Et Sophie me disait, mais comment c'est possible, alors que ces gens-là ont entendu que Jésus allait venir, qu'ils se soient mis plutôt à acheter toutes sortes de choses inutiles, à s'endetter terriblement, et d'autres même à aller se cacher dans des cavernes en disant, on va juste se cacher là-bas en attendant puisque Jésus vient nous chercher. Et alors que les dates sont passées, se sont retrouvés dans une confusion terrible. Et ça, ce sont des faits réels et documentés. Et il y a plusieurs fois, dans les dernières décennies, aux alentours des années 80 aussi, notamment eu des soi-disant prophéties que Jésus revenait. Et c'est absolument effrayant de se rendre compte que la réaction de ces soi-disant croyants en entendant ces paroles a été de faire des crédits, de s'endetter sur des télévision, sur des voyages, sur des plaisirs de toutes sortes, et se retrouver ensuite dans une confusion incroyable parce qu'ils étaient maintenant dans la nécessité de devoir payer toutes ces choses-là, alors qu'ils se disaient de toute façon on ne me retrouvera pas puisque Jésus vient. Je crois qu'ils sont passés à côté de quelque chose. L'Écriture est pourtant tellement claire. Elle dit, le jour vient, dépouillez-vous des choses terrestres. Et si ce que ça vous inspire de vous dire que Jésus vient, c'est de faire toutes les bêtises qui vous passeraient par la tête en vous disant que personne ne vous demandera des comptes, s'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est absolument inconcevable. Et ça vient simplement souligner que ces soi-disant messages de Dieu n'étaient absolument pas de Dieu. Parce que comme le dit Éphésiens, nous avons vu tout à l'heure, la vérité produit la sainteté. Donc si un message, si une interpellation, et c'est ma prière en toute humilité, est prêt à reconsidérer les choses, mais j'ai une telle conviction. Mais si ce que vous entendez produit en vous l'envie de courir encore plus dans les choses du monde, s'il vous plaît, arrêtez-moi et dites-moi, attention, parce que là tu fais plus de mal que de bien. Même s'il est clair que le cœur de l'homme est tortueux, ça on ne peut pas l'éviter. Mais en principe et normalement, la vérité doit produire en vous la sainteté. Et vous savez depuis quelques jours que cet accent est mis spécialement par l'Esprit dans mon cœur en disant « Eh oh, attention, il y a des choses qui arrivent, l'heure est proche, il y a une telle conscience de la sainteté. » Je ne sais pas si c'est comme j'ai jamais eu, mais en tout cas comme j'ai rarement eu. Ça fait tous ces derniers jours, il y a une conscience. Et bien sûr que je sais que Jésus revient, et je le sais depuis qu'on me l'a enseigné, il n'y a pas de problème, j'en suis convaincu, j'ai foi pour ça, et vraiment, je marche là-dedans. Mais depuis quelques jours, c'est comme si chaque jour, je pense constamment, plusieurs fois par jour, je suis là dans la pensée, mais Jésus revient, mais Jésus va paraître et je dois paraître. Mais le moment est là. Et ça met comme une responsabilité, comme un poids, non pas qu'il fait mal ou qu'il est dur, mais je me dis, oula, mais attends, je ne peux plus maintenant juste faire des choses pour faire des choses. Et par rapport au ministère, je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu vas accomplir maintenant? C'est tellement plus important, parce qu'il ne reste plus tellement de temps. Parce qu'il y a plein de choses bien et bonnes qu'on pourrait faire, mais maintenant, cette conscience-là qu'il revient et que c'est pour bientôt, je me dis, Seigneur, qu'est-ce qui est vraiment le plus important? Et dans ma vie personnelle, Seigneur, qu'est-ce qui finalement compte le plus? Peut-être des choses que j'aurais recherchées ou attendues ou désirées, pour lesquelles peut-être même j'essayais d'activer ma foi. Et si ce sont des besoins, je les obtiendrai, je serai pourvu selon la richesse de Dieu et avec gloire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est absolument plus ma priorité. Ça ne peut même plus être ma priorité. Je dis, mais Seigneur, c'est l'heure de paraître, l'enlèvement est proche, qu'est-ce qui compte le plus maintenant pour toi? Et qu'est-ce qui doit compter pour moi? Et cette conscience est là, et même alors que j'en parle, il y a quelque chose dans mon être intérieur, il y a une conscience, il y a quelque chose qui est là. Et je prie que ça vous soit communiqué, parce que la vérité produit la sainteté et la justice. Donc il nous invite à nous dépouiller de ces choses-là, mais ce n'est pas juste dépouillez-vous et puis point final, c'est revêtez-vous. Romains 13. Pardon. Romains 13. Verset 14, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et cela vient éclairer pas mal de choses. Et alors qu'il était question plus haut de paraître, que votre lumière brille devant les hommes, le monde attend la révélation des fils et toutes ces choses-là, eh bien nous réalisons que ce n'est pas nous qui devions paraître. Le monde n'attend pas Fabien. Et excusez-moi si ça vous déçoit, le monde ne vous attend pas vous. Il vous a déjà, il vous connaît. Et vous en êtes issu. Parce que nous étions de ce qui était du terrestre. Mais ce que le monde attend, c'est Christ. Ce que le monde attend, c'est le céleste. Et ce que le monde attend, ce n'est plus le Fabien terrestre, issu de cette terre et descendant d'Adam, ayant par la même occasion hérité du péché, de la malédiction et de tout ce qui traînait par là. Mais ce que le monde attend, c'est la révélation du Fabien régénéré en Christ, du Fabien mort en Christ, mais ressuscité, et du Fabien participant à la nature divine, du Fabien devenu céleste, de celui qui est un fils de Dieu, sur lequel il doit pouvoir voir, comme en témoigne Jean chapitre 1, nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, voilà ce que le monde attend. Mais pour que le monde voit ces choses-là, pour que le monde nous voit briller, nous avons besoin de nous revêtir de Jésus-Christ. Vous pouvez toujours essayer de briller par vous-même, ça peut vous amuser un moment, mais vous en aurez marre quand le temps passera, parce que vous verrez que vous n'y arrivez pas. Ou alors peut-être vous pouvez briller un petit peu devant les hommes, devant certaines personnes, mais ça ne produira pas grand-chose, parce que ce qui compte et ce à quoi Christ nous appelle, c'est que la lumière, qui l'a allumée? Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau. Votre lumière ne vient pas de vous-même, vous ne l'avez pas allumée vous-même. Votre saveur ne vient pas de vous-même. Mais elle vient de ce que vous êtes participant de la nature divine. Elle vient de ce que vous avez été recréé en Christ. Pour qu'à travers vous, à travers nous, Dieu fasse connaître à ce monde la grandeur, la richesse de la splendeur de sa gloire. Nous avons besoin de nous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 48, vous n'avez pas besoin d'y aller, mais il est dit, tel est le céleste, tels sont les célestes. Vous êtes les célestes. Le céleste, c'est Jésus, par excellence. Ailleurs, toujours dans l'Épître aux Romains, notamment au chapitre 8, il est dit que Dieu a fait en sorte qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Luc, chapitre 6, verset 10, nous dit « Le disciple accompli sera comme son maître. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Donc, ce deuxième point, se dépouiller, se détacher du terrestre au profit du céleste. Et mon troisième point, c'est peut-être le plus crucial, la délivrance. Et à travers ça, l'enlèvement est plus proche que jamais. L'enlèvement est proche. Revenons à Romains 13. Verset 11. Nous l'avons vu, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil ou c'est l'heure de paraître. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. En fait, ici, le salut, on connaît l'un des termes pour le salut dans le Nouveau Testament, c'est le mot sozo, et ça nous parle de la guérison, la délivrance, la restauration, et toutes ces choses-là que nous recevons, et merci au Père pour l'œuvre de Christ qui nous assure le salut, sozo. Mais ici, il est question du salut soteria. Et le salut soteria a surtout la notion de délivrance, de délivrance. Et oui, Christ nous a délivrés de ce monde. Merci Père pour cette gloire et cette richesse absolue. Mais ce qu'il nous dit ici, il nous dit, réveillez-vous, c'est l'heure de paraître. Parce que la délivrance, j'ai envie de dire la délivrance ultime, est plus proche que jamais. Cette délivrance, c'est votre enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église de Jésus-Christ. Voici la révélation, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Réveillez-vous, paraissez, car l'enlèvement est proche. L'enlèvement arrive. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 57. C'est une parole que l'Esprit a appuyé sur mon cœur et cette parole est pour nous. Cette parole est pour cette génération. 1 Corinthiens 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Là encore, nous voyons qu'en même temps qu'il est question de la délivrance, ou du départ, disons-le carrément, il est dit aussi « travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur ». Quelle séduction ce serait de s'éloigner encore de Dieu et de vaquer à nos convoitises charnelles. Il n'y a plus beaucoup de temps. Arrête de dire « mais je vais en profiter encore pour faire ce que je n'ai pas fait, pour avoir les petits plaisirs que je n'ai pas ». C'est quoi? Ce n'est rien. Et pire que ça, tu viens souiller ton être intérieur. Tu viens fouler aux pieds le salut pour lequel Christ a payé pour des soi-disant plaisirs, pour des soi-disant satisfactions de cette terre qui ne sont rien, qui sont tellement viles à côté de ce qui vient, de la gloire des choses à venir auxquelles Christ t'appelle et pour lesquelles il vient nous chercher. Mais ces paroles-là sont pour nous, bien-aimés. Recevez-les simplement dans votre cœur et croyez-les avec moi. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. Nous verrons l'enlèvement. Nous le verrons. Alors je me suis dit, Seigneur, d'accord, mais pourtant ma vision, c'est Jean 10-10, la vie en abondance. Et bien sûr, il y a la vie éternelle, pas de problème, mais j'ai reçu le mandat, je crois vraiment, de travailler et d'aider les gens à s'épanouir dans leur vie, dans tous les aspects de leur existence, leur vie sur la terre. J'ai dit, Seigneur, est-ce que je suis à côté ou qu'est-ce qui se passe? Ou alors, Seigneur, comment cette année changer ou adapter mes actions pour être dans ce qu'il faut, puisque tu nous dis de laisser les choses terrestres, mais le Seigneur m'a dit, ça ne change absolument rien. La question, c'est l'orientation. Et quand il nous dit Jean 10:10, que le voleur ne vient que pour égorger, voler, détruire, mais moi, dit Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Le Seigneur m'a apporté une lumière nouvelle là-dessus. Il m'a dit, bien sûr, vous êtes appelés et j'ai payé le prix pour que vous viviez et vous viviez en abondance votre vie sur la terre. Ça ne change pas et la question n'est pas là. Mais le Seigneur m'a dit, quelle est la plus grande recherche? Quelle est la priorité? Quelle est la vision derrière tout cela? Est-ce que c'est réussir, prospérer, se développer sur la terre juste pour les choses de la terre et juste pour cette vie terrestre? Ou bien est-ce que c'est réussir, se développer, prospérer, avancer dans les choses de la terre avec la conscience des choses qui viennent du temps dans lequel vous vivez et pour que vous puissiez amener et briller et paraître dans ce monde? Et comme un second volet à cette compréhension, le Seigneur me disait, le voleur ne va arriver bientôt et ne sera relâché bientôt que pour voler, égorger, détruire. Parce que vient ce qu'on appelle la tribulation. Et bien sûr, je n'ai pas le temps ici de faire un cours d'eschatologie complet, d'étude de la fin des temps. Mais pour faire simple, l'Écriture enseigne que dans les temps qui viennent, les temps de la fin que nous vivons, il y aura plusieurs périodes. Et dans ces périodes, on peut simplement citer quelques éléments majeurs que je vous livre ici. Avant toutes ces choses-là, Jésus paraîtra sur les nuées et viendra chercher son Église. Ensuite, arrivera ce qu'on appelle la tribulation. Des années difficiles, pendant lesquelles celui qu'on appelle l'Antichrist sera révélé. Et il prendra sa place et il fera ce qu'il a à faire. Et ce seront les temps les plus difficiles pour l'humanité. Des temps de souffrance terrible, hein, des temps d'oppression, des temps de douleur. Mais l'Église, mais vous et moi, n'aurons pas à vivre ces temps. Parce que Christ nous cherche avant, c'est ce qu'enseignent les Écritures. Et ensuite, Jésus reviendra. Et ce qu'il faut bien réaliser, c'est qu'il y a deux événements distincts. Il y a l'avènement du Seigneur dont parle l'Écriture, qui est Jésus paraissant et enlevant son Église. Et il y a le retour de Jésus, où Jésus viendra effectivement sur la terre. Et alors se dérouleront encore bien d'autres événements décrits entre Matthieu 24 et le livre de l'Apocalypse notamment, en passant par les semaines de Daniel qui sont hautement prophétiques. Mais là n'est pas la question. Mais ce qu'il faut bien différencier, et là où il faut être vigilant, c'est que ce sont deux choses différentes. L'enlèvement n'est pas le retour de Jésus à proprement parler. Jésus, oui, paraîtra, et on va le voir dans un instant, et je vais clore mon propos pour ne pas être trop long, mais et là nous paraîtrons de manière pleine avec lui, puisque il dit que nous serons élevés dans les airs et les gens verront et diront waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Et ensuite se passeront tout un ensemble d'événements et viendra la tribulation. Et c'est comme si on disait moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance, et je ne permettrai pas que le voleur qui viendra à travers la tribulation en force pour tuer, égorger, détruire ne les atteigne, parce que je les aurai enlevés d'abord. Et donc Jésus nous dit, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance, c'est vrai maintenant, c'est absolument valable, mais au moment où Christ viendra nous chercher, et ça arrive très vite, l'enlèvement arrive, il vient justement pour que nous ayons la vie et la vie en abondance, parce qu'alors nous jouirons de ce corps renouvelé, ce corps glorifié, ce corps qui, comme il est dit ici, aura revêtu l'incorruptibilité et l'immortalité et sera avec lui, en attendant son second retour sur la terre. Est-ce que ça va? Ok. Donc Jésus est venu nous donner cette vie en abondance que nous pouvons et que nous devons expérimenter dès maintenant dans notre vie sur la terre et qui sera à son apogée quand il viendra nous chercher. Parce que quelle plus grande abondance que juste d'être attiré par sa présence, par son être là. Et alors que nous sommes en train de monter, d'être changés et de voir ce corps si limité et terrestre ne plus être. Moi, de voir ce corps là laisser la place à un corps incorruptible et immortel pour être avec lui. Hey ! Merci Seigneur. Et alors ensemble nous formerons et nous paraîtrons devant lui comme cette église, cette épouse glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Colossiens 3, versets 2 à 4. Merci Seigneur. Colossiens 3, verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Et juste pour vous confirmer ce que j'ai dit précédemment, juste après il a encore dit, faites encore mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Mais en même temps il dit, vous allez paraître avec lui dans la gloire, mais faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Donc nous avons à choisir, à nous positionner, abandonner, nous dépouiller du terrestre pour épouser, nous revêtir du céleste jusqu'à ce moment glorieux où nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire et où tout simplement notre être actuel sera revêtu et transformé pour devenir cet être incorruptible, immortel, spirituel, pouvant être avec lui. Nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Quand il apparaîtra, lors de son avènement, lorsqu'il paraîtra pour nous enlever, eh bien nous paraîtrons et nous nous élèverons avec lui. 1 Thessaloniciens 4 nous dit ça textuellement, parce que vous dites peut-être que l'imagination du pasteur est galopante en ce moment, il nous voit nous élever dans les airs, et notre corps qui est en train de se changer. Oh non, je n'ai pas regardé trop de science-fiction. Et ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que si vous connaissez la Bible, vous réalisez que, en réalité, les effets dits spéciaux de la science-fiction d'aujourd'hui sont déjà dépassés à côté de ce que Dieu est capable de faire et d'imaginer, de concevoir. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, il est dit « Le Seigneur lui-même, oh merci Seigneur, a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ensuite nous les vivants, et nous serons encore ces vivants-là. » On a lu 1 Corinthiens 15 avant. Nous ne mourrons pas avant. Nous serons ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oh, alléluia. Hey, ça va être quelque chose quand même. Hein. On va avoir un signal, un son de trompette, le Seigneur va apparaître et puis youp, on va être en train de monter, c'est dit dans les airs. D'accord ? Alléluia, pour être toujours avec lui. La délivrance arrive. Elle est plus proche que lorsque nous avons commencé de croire. L'enlèvement est proche. Donc, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et juste par rapport au retour de Jésus que je viens de commenter tout à l'heure, vous pouvez noter, le lire pour vous. Vous verrez, il en est question dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. À partir du verset 1er, dans la suite notamment, et vous comprendrez la différence parce qu'il est dit au sujet du retour de Jésus qu'il y a un certain nombre de choses qui doivent se passer d'abord, qui ne se sont pas encore passées, et qui ne se seront pas passées lorsque nous serons enlevés, mais qui arriveront entre-temps, et qui seront totalement accomplies avant que Jésus ne revienne sur la terre pour son retour. Et c'est là la différence, c'est là qu'il y a parfois confusion. De la même façon, une remarque juste en passant, certains disent constamment « Nul ne connaît le jour ni l'heure de sa venue. » Et c'est vrai, Jésus lui-même a dit cela. Personne ne sait et il viendra comme un voleur dans la nuit. Mais quand il dit tout cela, il parle du retour de Jésus. Il ne parle pas de l'enlèvement. Et au sujet de l'enlèvement, il nous dit au contraire « Vous savez dans quel temps nous sommes ?» Paul le disait à ses contemporains. Et aujourd'hui, l'Esprit de Dieu utilise l'Écriture et nous amène ce qu'on appelle la vérité présente en disant « Vous savez dans quel temps vous êtes ? » Maintenant là, c'est maintenant. Et c'est plus proche lorsque vous avez cru. Et au contraire, comme je l'ai dit, l'Écriture nous engage régulièrement à discerner les temps, à comprendre dans quelle saison nous sommes. Et il est donc largement acceptable, parce que j'ai posé la question au Seigneur, et je ne vaux pas mieux qu'un autre quand vous ne savez pas demander lui, il vous répond, parce qu'il vous aime, et parce que son esprit vous enseigne. Nous ne devrions pas être ignorants au sujet des temps dans lesquels nous vivons. Et nous ne sommes pas supposés être ignorants au sujet de l'enlèvement. La seule chose que nous ne pouvons pas savoir et que les hommes ne sauront pas, c'est le retour de Jésus. Parce que ça, personne ne le sait. Et il viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est lié aussi à ce qui doit se passer après son retour sur terre. Parce qu'entre-temps, l'Antéchrist aura pris la place, un certain nombre d'événements se seront déroulés, ce sera un chaos terrible. Et donc il viendra dans certaines circonstances et accomplira ce qui doit être accompli avant de remettre de l'ordre, que nous ne régnions avec lui pendant 1000 ans. Mais nous, on n'aura pas été sur terre entre-temps. Quand il va revenir, il dit « Ok, maintenant c'est le moment, venez, on y va, et on va régner pendant 1000 ans, dit l'Écriture. » Et ensuite, il va y avoir encore un certain nombre d'événements, et jusqu'à ce jour merveilleux où Dieu mettra en œuvre les nouveaux cieux, la nouvelle terre, avec ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem, une ville neuve, complètement faite d'or et de choses précieuses, dont Dieu lui-même soit la lumière et la présence constante, et où nous vivrons avec lui pour l'éternité. Mais ça, c'est encore autre chose. Je résume vraiment tous ces événements-là, mais ce sur quoi j'insiste, c'est cet appel de Dieu. C'est l'heure de vous réveiller. C'est l'heure de paraître, briller. Dépouillez-vous des choses de la terre et revêtez-vous de Christ. Revêtez-vous du céleste, parce que l'enlèvement est proche. L'enlèvement est proche. Et il n'est pas question ici de prétendre que nous puissions devenir totalement acceptables et absolument conforme à ce que nous devrions être pour que nous soyons enlevés et pas les autres. La question ici, c'est de pratiquer ce que la parole de Dieu nous dit, c'est de nous décider et de vivre au quotidien avec la conscience que l'enlèvement est proche, que nous devons nous dépouiller des choses de la terre et nous revêtir de Christ. Mais celui qui accomplit ces choses-là, ce n'est pas nous. Ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas avec notre propre justice, comme si nous pouvions faire des œuvres meilleures que quelqu'un d'autre, comme si nous pouvions nous justifier nous-mêmes, mais c'est en fait à travers l'œuvre de Christ. C'est pourquoi il dit à chaque fois, revêtez-vous de Jésus-Christ. Pour que lorsqu'il viendra nous chercher, même si nous ne sommes pas encore, de notre point de vue, et même du point de vue terrestre et humain, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, puisque nous sommes revêtus de Jésus, ce que le Père verra, c'est Jésus. C'est l'œuvre de Jésus, c'est ce revêtement et c'est ce manteau de la grâce et de la rédemption. C'est ce qu'il verra. Et à ce moment-là, comme dit l'Écriture, notre corps qui aura encore des marques de corruptibilité, deviendra incorruptible. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus ne faites plus rien pour vous purifier. L'Écriture nous dit que celui qui se sanctifie encore. Et notre démarche doit être celle-là. Romains 19, versets 20 à 25, j'en ai presque fini. Ça va ? Non, 19, ça n'existe pas. Non, tant pis. Peut-être 9. En fait, il est question d'être sauvé en espérance. Jusqu'à ce que nous soyons amenés à lui. Voilà, c'est ça. Romains 8, pardon. Romains 8, nous avons vu verset 19. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création était soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera un jour affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc la création est consciente que les enfants de Dieu jouissent d'une liberté et de gloire. Et nous savons, verset 22, que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et vous savez quoi, ça va être de plus en plus le cas. Nous allons de plus en plus soupirer et avoir en nous, en disant, mais... Et je ne sais pas si vous avez constaté, mais ces derniers temps, j'ai entendu à plusieurs reprises ici et là parler d'incorruptibilité, d'immortalité, de corps glorifié et de toutes ces choses-là. Et même si ça a pu être dit dans une manière ou une autre, mais tout cela, ce sont des signaux que nous sommes en train de soupirer. Nous sommes en train d'attendre l'adoption, la rédemption de notre corps pour être élevés et avec lui dans sa gloire. Car c'est en espérance, verset 24, que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore ? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. En fait, ce qu'il veut dire ici, encore une fois, ça ne veut pas dire que nous sommes sauvés en espérance au sens de sozo. Vous êtes sauvés. Vous êtes nés de nouveau, vous êtes enfants de Dieu. Vous avez accès à la délivrance, à la guérison, au salut, à la rédemption par son sang, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est concret, c'est maintenant, c'est pas en espérance, c'est du réel, c'est tout de suite. Mais ici, c'est encore, vous êtes sauvés, c'est-à-dire, nous sommes délivrés de ce corps pour être avec lui en espérance. On ne le voit pas encore, mais puisqu'on ne le voit pas encore, nous l'attendons avec persévérance. Et nous sommes dans le temps où l'enlèvement est proche. Attendons-le avec persévérance. Positionnons-nous en étant conscients qu'il vient et que nous allons faire partie de ce plan merveilleux. Oui, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller et de paraître. C'est l'heure de vous dépouiller du terrestre et de revêtir le céleste. C'est l'heure où l'enlèvement est plus proche que jamais. Alors revêtez-vous de votre nature céleste. Consacrez-vous à Dieu comme jamais vous ne l'avez fait. Marchez dans la sainteté. Revêtez-vous de Christ pour qu'à ce jour glorieux, vous preniez part à la délivrance qui est votre espérance, qui est notre espérance, pour que nous soyons enlevés avec lui. Et en attendant ce jour glorieux, brillez, que votre lumière brille, que Christ paraisse dans ce monde, que la création est la révélation des fils de Dieu après laquelle elle soupire. Ne vivez plus comme des terrestres attachés aux choses de la terre, mais vivez comme le céleste que vous êtes, attaché aux choses célestes, aux réalités célestes. Brillons, paraissons là où nous sommes, jusqu'au jour béni et glorieux, où il paraîtra dans le ciel, et où, comme dit l'Écriture, nous paraîtrons avec lui dans la gloire. Que l'Esprit Saint témoigne encore à vos cœurs, qu'il nous enseigne que celui, comme je disais précédemment, qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Soyons éveillés, paraissons, c'est l'heure. Amen. Amen. Alléluia.